Le Seigneur m'a mis à cœur après trois passages, en fait, d'invités. Hein. C'est comme ça. Hein. Parfois, les invités, ils n'ont qu'une date à vous proposer, donc ça s'est tombé comme ça. Je préfère disséminer, mais quand c'est pas possible, je préfère quand même les accueillir, ce qui nous ont fait du bien. Vous avez bien aimé ? Aurèle Vidal, vous avez bien aimé ? Jean-Hugues, de Marseille. Vous avez bien aimé ? Jean-Hugues. Il a tout un séminaire sur le discipulat. Et ensuite, Jérémy. Vous avez bien aimé, Jérémy ?
Amen.
Ben, Jérémy, voilà, il commence à faire partie un peu de nos liens étroits qu'on vient de découvrir avec l'église d'Ifto. On a passé, en fait, toute l'après-midi chez Jérôme et Juno, hein, qui sont un peu leur équivalent. Hein. Jérémy assiste le pasteur Gilles, et c'est le cas aussi de Jérôme et Juno. Et donc, on a vraiment eu des liens très forts. Il faut que vous le sachiez, parce que ça rassure aussi les membres de savoir qu'on n'est pas tout seul. Hein. On n'est pas tout seul. Bien sûr, on a parfois des déboires avec certaines personnes, mais ça arrive. Hein. Est-ce que dans votre couple, c'est parfait ? Est-ce que c'est parfait dans votre couple ? Ou est-ce qu'il y a des fois des petites frictions, des petites choses ? Ouais, bon, c'est peut-être la question que je ne dois pas poser. Mais je connais la réponse, bon, parce que je suis moi-même en couple. Hein. Non, mais les conflits, ça fait partie de la vie. Et pourquoi ça fait partie de la vie ? Ben parce qu'un homme est différent d'une femme. Non, vous avez remarqué ça ? Oh, j'essaie de vous faire réagir, hein, mais bon, c'est un peu difficile ce matin. Hein. Vous êtes tellement loin que... voilà. Et une femme est différente d'un homme. Hein, parce qu'elle ressent des choses que l'homme ne ressent pas toujours. Donc, il faut qu'elle le secoue. Ouais, ouais, ouais. Et puis l'homme doit raisonner la femme en disant, ben non, l'autre, ça existe, ceci, ça existe, etc. Voilà. Donc la rationalité et l'expérience sentimentale, l'affect, ça ne va pas toujours ensemble. Mais le Seigneur l'a fait. Vous croyez que Dieu a fait l'homme et la femme ?
Amen.
Oh, j'entends pas beaucoup d'amen. Hein. Ah, quand même. Si vous croyez, eh bien, il faut remercier le Seigneur de ce que c'est la manière dont il l'a fait. Parce que si on veut que ce soit autrement, ben, il faut s'en prendre au Seigneur, alors qu'on est là pour l'adorer, le louer, le bénir. Parce qu'il a dit que tout était bon. Lisez Genèse. Il a dit, tout est bon, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Qu'est-ce qui a fait que c'est mauvais ? Que les conflits dégénèrent en guerre, en conflit de toutes sortes, en divorce ? Qu'est-ce qui a fait que c'est pas bon ? Voilà, vous êtes vraiment empathique, hein, parce que je sais que vous savez. Allô ? Non, vous n'osez pas ? Je vous intimide ? Qu'est-ce qui a fait ? Mais je ne voudrais pas que vous intimidiez devant Dieu, hein, parce que Dieu, il est là. Dieu, il est là. Et il aime qu'on observe sa parole. Donc, il faut connaître sa parole. Et sa parole dit que Dieu avait fait les choses bonnes. Mais qu'est-ce qui a fait que c'est plus aussi bon que ce que Dieu a fait ? C'est quoi ? Pardon ? Plus fort.
Le péché.
Et est-ce qu'il n'y a que les hommes qui pêchent ? Est-ce qu'il n'y a que les femmes qui pêchent ? Ben les hommes, remuez-vous, non ? Voilà. Dites oui. Non, vous voyez, il faut être authentique. Hein. Bon, je ne sais pas, moi. Si on n'est pas authentique dans l'Église, je ne sais pas où on sera. Hein. On critique le monde et puis on ne l'est pas dans l'Église. Est-ce que les hommes pêchent ? Est-ce que les femmes pêchent ? Donc tout le monde pêche. Donc tout le monde est pécheur. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir l'absence justement de ces conflits qui viennent du péché ? C'est quoi ? Ça suffit pas. Ça suffit pas. Pardon ? Ça suffit pas. Ah bah je suis cash parce que c'est la parole, hein. Non, toi, tu es exclu de réponse. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi il y a des conflits ? Pourquoi les conflits durent ? Pourquoi les choses ne se rétablissent pas ? Tout, pourquoi ? Voilà. Merci, mon mon associé, diacre, qui connaît bien sa parole. Le manque de pardon, la repentance, d'autres mots qui veulent dire la même chose. Dire je me suis trompé. C'est pas facile de dire je me suis trompé. Parce qu'on raisonne, on dit ouais, si je lui dis je me suis trompé, c'est-à-dire que lui, ceci, cela, vous voyez, on raisonne. Alors que l'authenticité, c'est ce que Dieu cherche, c'est qu'on soit authentique. Je me suis trompé, point. Ça ne veut pas dire que je suis coupable, ça veut dire que je me suis trompé. Et du coup, on peut en parler. Pourquoi tu t'es trompé, etc. Ben là, ça crée de la communication. Enfin bon, je ne suis pas là ce matin pour parler de communication dans le couple. Hein. Donc arrêtez-moi parce que je suis bavard. Mais je vais vous parler en quoi l'Église est-elle le temple de Dieu. Est-ce que vous savez que l'Église est le temple de Dieu? Oui? Ah, c'est bien. Qu'est-ce que c'est l'Église encore? Il y a ce qu'on appelle des métaphores, c'est des images de l'Église. C'est quoi l'Église aussi? Allez-y. Pardon? Le corps de Christ? L'épouse? L'assemblée?
Les pierres vivantes que nous sommes?
Les pierres vivantes? Le peuple de Dieu. L'Église, il n'y a pas une seule définition de l'Église. L'Église, c'est un tas de choses. Et c'est pour ça que c'est difficile d'expliquer ce que c'est que l'Église, parce que, suivant, là ce matin, je ne peux pas tout vous dire sur l'Église, mais je veux dire en quoi elle est le temple de Dieu. Voilà. Mais ce n'est pas parce que je prêche ce matin là-dessus que ça veut gommer tous les autres aspects de l'Église. Ok ? Le problème des prédications, c'est qu'on ne peut pas tout dire en même temps. Donc on y va au fur et à mesure, un peu comme un éléphant, on ne peut pas le manger si on ne coupe pas en morceaux. Hein. Donc il faut couper en morceaux et puis on le mange au fur et à mesure. Là, c'est pareil. Un sujet sur l'Église, c'est extrêmement complexe. Et donc aujourd'hui, c'est en quoi l'Église est-elle le temple de Dieu. Alors, on va lire Éphésiens 2 parce que. Ceux qui ne le sauraient pas, il y a certaines épîtres de Paul qui sont destinées à certains thèmes particuliers. L'épître aux Éphésiens traite de l'Église. Donc c'est pas étonnant que le chapitre 2, je vous le lis ce matin, mais il y a d'autres chapitres dans Éphésiens qui parlent de l'Église aussi. Il y a Colossiens, par exemple, qui est juste à côté d'Éphésiens. Colossiens, il traite de la seigneurie de Jésus. Vous voyez. Donc vous avez des thèmes, c'est pour ça aussi qu'on prêche par thème, comme l'apôtre Paul faisait dans les épîtres où il abordait certains thèmes. Donc Éphésiens 2, et on va commencer à lire... Verset 1er. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Et on revient au péché. Le péché amène la mort. Donc si la mort est dans un couple ou dans une société ou dans un groupe, peu importe, hein, la mort, ça amène pas la vie, ça amène le chaos. Donc vous étiez à cause de vos fautes et de vos péchés, par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Là déjà, on a une certaine révélation de l'origine des problèmes. L'origine des problèmes, c'est spirituel. Avant même... qui est, tout à l'heure, j'ai évoqué la différence homme-femme, voilà, noir-blanc, voilà, toutes sortes de différences entre les personnes. Non, c'est spirituel. Et là, l'apôtre insiste bien sur la notion de spirituel. Vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Et vous, nous qui voulons être des chrétiens évangéliques, bibliques, il faut s'appuyer sur la Bible. Là, je suis en train de lire la Bible. Or, la Bible, elle nous révèle que l'origine de nos problèmes, des problèmes d'incompréhension et autres, entre les hommes, les guerres et tout ça, on a prié tout à l'heure pour ça, c'est spirituel. Amen ? Vous dites amen ? C'est spirituel. Les choses spirituelles doivent être traitées spirituellement. Les choses matérielles, matériellement. Les choses psychologiques de l'âme doivent être traitées psychologiquement. L'ensemble fait un tout, donc Voilà, c'est un peu plus complexe que de séparer les choses. Comme tout à l'heure, je parlais de l'éléphant. Il faut, à un moment donné, les rassembler. Mais bon, il faut déjà traiter les choses dans leur registre, dans les lois. Il y a des lois spirituelles, il y a des lois psychologiques, il y a des lois matérielles et physiques. Nous aussi, verset 3, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est changé. J'ai entendu parler tout à l'heure, Sylvie, de nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui se produit dans le chrétien. Je me rappelle, quand je regarde Bila, je pense à Moussa Koné. Tu connais Moussa Koné? Voilà. Quand cet homme, il vous parle, vous voyez un changement mais radical, quoi. Hein, bon. Et c'est cette radicalité du changement qui fait un homme de Dieu, qui, malgré les persécutions, il reste stable parce qu'il sait en qui il a cru. Et donc, la nouvelle essence, eh bien, c'est spirituel. C'est spirituel. Regardez Jésus avec Nicodème. Nicodème ne comprenait pas. Il dit, il faut que je revienne dans le ventre de ma mère pour renaître. Il dit, tu es rabbin, tu es même tu connais très très bien ta parole, mais tu vois là, tu n'as pas compris que c'est spirituel. Tu dois naître d'en haut, pas d'en bas, d'en haut et d'en bas. Nous aussi, nous faisions partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre chair et notre pensée nous poussaient à faire. Quand on fait des séminaires et puis qu'on évoque un peu l'âme, qu'est-ce qu'il y a dans l'âme, bon, là, c'est pas un traité de psychologie, l'épître, mais elle évoque quand même des choses importantes. Dans l'âme, il y a la chair, la pensée qui est importante, notre pensée. On a tous une pensée. Sauf que cette pensée, est-ce qu'elle est dirigée sur Dieu ou dirigée sur nous-mêmes? Vous voyez, c'est entre la chair et l'esprit. Et ça nous pousse à faire, ça nous pousse. Voyez-vous, on est poussé par notre chair et nos pensées. Aussi étions-nous par nature, donc quand nous sommes nés naturellement, destinés à subir la colère de Dieu, comme le reste des hommes. La colère de Dieu repose sur nous. Même en tant que chrétiens, si nous sommes dans la chair. Hello? J'ai votre attention là? Okay. Même si nous sommes dans la chair, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous sommes sous la colère de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Verset 4. Mais, maintenant, ça veut dire qu'il y a un avant et un après. Il parle de l'avant. On était pécheurs, etc., sous le joug des puissances spirituelles, etc. Mais maintenant, Dieu, qui est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, voyez-vous, l'apôtre Paul, il est très très pédagogue, il répète les choses pour que ce soit bien clair que c'est nos fautes qui amènent le péché, qui nous amènent à la mort. On le sait tous d'après l'histoire de la Genèse, hein, mais souvent c'est un mythe, c'est une sorte d'image qu'on a dans la tête. Mais pas, il faut être profondément convaincu que nous sommes morts quand nous sommes dans nos fautes. Et si nous gardons une faute relationnelle, de conflit entre nous, etc., ben nous sommes dans les fautes, et nous sommes la colère de Dieu. Vous voyez ? Et j'aime beaucoup Jean-Hugues qui a bien, bien, bien expliqué ça. Que c'est pas parce qu'on est chrétien né de nouveau que tout va bien. Hein. Okay. Il faut obéir à la parole. Or là, il est dit que nous sommes spirituellement en cause de nos fautes et il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est grâce au Christ. Christ, ça veut dire Messie, ça veut dire oint de Dieu, le Fils de l'homme qui est venu. C'est grâce à cela que nous pouvons vivre. Voyez-vous, la vie que nous avons ici, là, chacun de vous, tenez-vous un peu pour que vous sentiez que vous êtes bien là avec nous. Bon, bah, cette vie-là va disparaître. Hello? Vous y croyez? Cette vie-là que vous avez, la vie naturelle, ça va terminer dans le tombeau. Parce qu'elle ne peut pas recevoir la vie de Dieu. C'est pas possible. Ça, c'est la chair. C'est la poussière, c'est attaché au péché. D'ailleurs, vous le voyez bien dans nos infirmités, nos maladies, tout ça. Voilà, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Alors que la vie spirituelle, elle est parfaite. La vie spirituelle, naissant d'en haut, elle est parfaite, parce qu'elle vient de Dieu. Donc, nous sommes spirituellement morts, et il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est pour ça que nous sommes là pour adorer le Christ, parce que c'est lui qui nous donne la vraie vie. La vie, comment elle s'appelle la vie ? Allô ? Comment elle s'appelle ? Éternel. Vous connaissez Éternel ? Dites Éternel. Dites, j'ai la vie éternelle. Ah là, c'est bon, ça commence à... vous êtes convaincus. Si vous êtes né de nouveau, vous avez la vie éternelle. C'est d'ailleurs le problème d'Ève, d'Ève qui, voilà, qui est une femme, sur les affects, les sentiments, etc. Elle a mangé, elle a dit à son mari, bah non, tu vois, je ne suis pas mort. Ah, tu vois, je ne suis pas mort, je suis vivant. Et tu es toute frétillante et tout ça. Elle ne se rendait pas compte que la mort allait venir après. Bon. C'est vrai qu'à l'époque, ils ont vécu jusqu'à 900 ans. Ok, ce n'est pas notre cas. Mais ils sont morts. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est tout. Donc ils ont péché, c'est la mort. La mort physique de ce qui reçoit les pensées du monde, les pensées de l'ennemi, qui est toujours présent. Le serpent, vous savez, de la Genèse, il est toujours là. Hein. Il ne s'est pas endormi. Hein. Au contraire, il est très très vivant. Et donc, il continue à nous séduire. Mais nous avons reçu la vie avec le Christ. Et c'est par la grâce, c'est-à-dire que ce n'est pas un effort que nous avons à faire, c'est la foi. C'est par la grâce que nous sommes et que vous êtes sauvés. Verset 6. Par notre union, alors ça c'est un terme très important qui va scander toute ma prédication. Par notre union avec Jésus-Christ. Dites union avec Jésus-Christ. Union. S'il n'y a pas d'union, voyez-vous, si on est né de nouveau, comme Sylvie nous l'a rappelé, mais qu'il n'y a pas d'union, vous voyez, quand on se convertit, moi je me suis converti il y a longtemps, mais vous peut-être un peu moins, on est tout fait de flamme. Hein. Alors ? Non ? Vous n'avez pas cette expérience ? Formidable. Et au bout de 40, 30, 40, 50 ans comme moi, on commence à être un peu blasé. Pourquoi ? Ben parce que tous les jours, on ne vit pas cette expérience qu'on avait au début. Mais c'est ce qui s'est passé avec Israël. Israël, ils ont passé la mer Rouge, vous rendez compte ? Sortis de 450 ans d'esclavage en Égypte. 450 ans, ils sont sortis. Et ils ont goûté à la liberté. Alors bien sûr, c'était le désert, alors ils se plaignaient. On veut retourner là-bas, il y a des oignons, des carottes, des machins, tout ça, on a bien mangé. Voilà. Vous voyez, c'est le ventre, quoi. C'est la chair qui les attire. Bon. On n'est pas mieux, hein. Mais ils ont oublié. Quand ils étaient en Canaan, tout ça, ils ont oublié. Et quand il y avait des Baals, des Astarté, des dieux, bah, ils se sont associés aux gens du peuple. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Église. L'Église, les gens, ils sont convertis, et puis au bout d'un certain temps, ah, on veut ça, on veut ça, on veut ça, voilà, et puis voilà, on n'est plus une Église. Vous savez, on critique beaucoup l'Église catholique. Sachez que l'Église catholique, elle a quand même 2000 ans d'expérience, 2000 ans du passé. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne vont pas, mais ils ont gardé la résurrection. La résurrection. Et les protestants, au bout de quelques années, ils ont dit, au XIXe siècle, ils ont dit « Jésus n'est pas ressuscité ». Donc, et les évangéliques, c'est encore pire. En l'espace de quelques années, on peut perdre la joie du salut, on peut perdre notre désir de prier, de louer, d'adorer, etc. Comme on l'a fait vendredi, ceux qui ont goûté à cela. Ça va très vite, les amis. Très, très vite. Dans une vie, ça va très vite. On perd le premier amour. Et qu'est-ce que dit la lettre aux églises, ou cette église dans l'Apocalypse ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, je te vomirai de ma bouche. C'est un chrétien qui parle. Je te vomirai de ma bouche, parce que tu es tiède. La tiédeur, c'est pire que les gens du monde, ceux qui sont froids. C'est ça, les gens du monde sont froids. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent être touchés et venir. Un chrétien qui est tiède, il ne peut pas revenir, puisqu'il est tiède, il ne se rend pas compte. Vous savez, c'est comme l'histoire de la grenouille, vous la connaissez. Hein ? Voilà, mettez une grenouille dans un bocal, vous mettez à chauffer, et puis la température monte doucement, et elle reste dedans, elle ne se rend pas compte, et puis elle est morte à 100 degrés. Bon, il suffisait juste d'attendre que l'eau arrive à 100 degrés, elle est morte. Et c'est ça la tiédeur, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est tiède. Mais ça, c'est un fléau absolument catastrophique. Et c'est ce que nous vivons, malheureusement, avec la puissance spirituelle du monde. C'est spirituel. L'ennemi veut étouffer le zèle qu'on a pour le Seigneur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger et trôner ensemble dans le monde céleste. Alors là, il y a une vérité qui est extrêmement importante. Extrêmement importante que Dieu m'a révélée ces derniers temps. Je l'ai partagée avec Charles. C'est une révélation absolument incroyable. C'est le trône de Dieu, assis sur le trône de Dieu. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Vous savez, souvent on passe des passages difficiles. Bon, certains essaient d'expliquer des passages difficiles. Là, c'est un passage relativement difficile. Mais si on comprend la profondeur de cet enseignement, eh bien, on n'est plus le même. Je peux vous garantir que vous ne serez plus le même si vous avez compris ça. Ce n'est pas l'objet de ce matin, donc je ne prêcherai pas là-dessus, mais je peux vous garantir que si vous comprenez que vous siégez, c'est-à-dire que vous trônez sur le trône, ensemble, alors c'est le mot « ensemble » qui est important, pas tout seul, hein, parce qu'il y en a qui se croient tout seul à siéger avec Christ et ils prennent position sur Satan, sur les démons. Voilà, c'est la chose à jamais faire parce que vous allez être trucidé, terminé. Non, non, ensemble, c'est-à-dire en tant qu'Église. Ensemble dans le monde céleste. Et c'est là qu'on trouve le tabernacle. Tabernacle, ça veut dire quoi ? Tabernaclé ? Allô ? Bon, c'est vrai que les langues, soit français, italien, n'importe où, ça vient des racines hébreux, grecques et tout ça, bon, latin. Bon. Et bon, si on ne connaît pas ces langues anciennes, moi je ne les connais pas, hein, j'étais scientifique, mais en ce moment, je n'arrête pas de regarder les dictionnaires, et puis j'ai un dictionnaire vivant à côté de moi, Michel, donc quand je lui demande, il me donne tous les détails, hein, littéraires, donc j'ai de la chance. Eh bien, tabernacle, ça veut dire demeurer. La demeure de Dieu. Là où Dieu demeure. Vous savez où il demeure ? Ben oui. Il faut le savoir, il demeure d'abord dans le ciel. Avant de demeurer dans le cœur, c'est dans le ciel. Le ciel, ce n'est pas forcément les nuages qu'on voit. Hein. C'est simplement autre chose que la création. Ça s'appelle le tout autre. Tout autre. Quelqu'un qui est tout autre. Tout autre, il n'est pas humain, il n'est pas... Je ne parle pas de Jésus, je parle de Dieu. Il est tout autre. Et ce tout autre, eh bien, il demeure dans ce qu'on appelle le ciel, hein, c'est-à-dire c'est un endroit où on ne peut pas y aller si le Seigneur ne nous transporte pas avec lui dans le ciel, dans sa présence. Mais là, il y a une demeure de Dieu. Allô ? Non ? C'est un scoop que je fais là ou pas ? Non ? Quelle est la référence que vous avez en tête ? Parce qu'on a tout de suite une référence en tête pour confirmer ce que je viens de dire par simplement une déclaration. Quels sont les passages qui parlent de la demeure de Dieu ? Le mieux, parce qu'il y a beaucoup de passages, hein, Ézéchiel, tout ça. Oui, oui, mais ma question c'est très précise, dans la Bible, dans quel endroit vraiment la demeure de Dieu, on ne peut pas passer à côté ? Si on passait à côté, on peut passer à côté partout, sauf là. Allô ? Ah, je veux travailler là. Vous savez, on va revenir un peu aux États-Unis. On était 2 ans au Canada, aux États-Unis. Ils ont les écoles du dimanche pour adultes, mais ça dure une heure avant le culte. Et là, oui, tu connais ? Voilà. Et là, c'est juste l'enseignement, quoi. On prend la Bible et puis on la lit, etc. Bon, je reviens à mes moutons. Je ne sais plus ce que j'avais dit. La demeure. Dans quel endroit on trouve sans faille qui décrit la demeure de Dieu ? Pardon ? Oui, mais où ? Dans quel passage biblique ? Je cherche à être biblique, c'est-à-dire dans les textes qui soulignent ça. Parce que nous, c'est la révélation, hein, c'est l'Écriture qui nous donne les informations. Pardon ? Si ? Alors, Ésaïe, oui, il y a des endroits, mais c'est encore plus clair. Et vous connaissez tous l'histoire, hein, vous connaissez tous. Ce qu'il y a, c'est que vous ne mettez pas forcément en face ce que je voudrais vous montrer du doigt. Est-ce que vous connaissez, c'est dans ce qu'on fait dans l'école du dimanche, le buisson ardent ? Hello ? Le buisson ardent de Moïse ? Vous connaissez le buisson ardent de Moïse ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il est sorti, quand le peuple est sorti d'Égypte, Dieu a dit, tu montes sur ma montagne. Vous voyez, c'est toujours les montagnes, mon Sinaï. Et là, il y a eu un buisson qui a brûlé sans se consumer. Allô ? C'est un miracle. La présence de Dieu était là. Il a dit, tu enlèves tes chaussures, tes sandales, parce que là, c'est un lieu sacré. Là, on commence à toucher au temple. Un lieu sacré. On ne fait pas n'importe quoi dans la présence de Dieu. L'histoire des chaussures, des sandales, c'était un symbole de dire, là, tu enlèves tout ton orgueil et tout ça, et je vais te parler, mais d'abord, commence à prendre la bonne disposition pour entendre ce que je vais te dire. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, là, en dehors des 10 commandements, vous avez certainement vu au cinéma, où Dieu a... C'est Dieu qui a inscrit les 10 commandements dans les tables de pierre. Mais, entre autres, par rapport à cette demeure de Dieu... Non. J'aimerais bien que quelqu'un qui est mort, que j'aimais beaucoup, qui revienne, Pierre d'Espagne. Qu'est-ce qu'il connaît, Pierre d'Espagne ? Il y en a que 3 qui sont ici, parce qu'il est mort. Hein. Pierre d'Espagne, c'était un pasteur qui était passionné du tabernacle. C'est le tabernacle. Tabernacle, ça veut dire demeurer. Le tabernaclé, ça veut dire demeurer. Il était passionné de tabernacle. Il a fait un tabernacle, mais je ne sais pas, il faisait 10 mètres, enfin, des déchets jusque-là, et il a tout fait. Mais alors, il a passé des années, je ne sais pas combien d'années, il a fait ce pasteur, où il a pris la Bible, il a tout fait jusqu'au décor des sacrificateurs avec les petites clochettes et tout ça, et nous expliquait tout. Ça prenait plus d'une semaine pour nous expliquer le tabernacle de Dieu. Parce que Dieu a montré à Moïse sa demeure. Ça s'appelle le tabernacle. Allô ? J'ai l'air de vous surprendre. Non ? Le tabernacle de Dieu. Et Dieu a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Je ne vais peut-être pas tout dire, parce que vous savez peut-être la suite. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse ? Une fois qu'il a vu, parce qu'il a vu, il a vu le ciel, il a vu, on parle du ciel, là où Dieu demeure, et le trône, et tout ça, voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moïse ? Allô ? J'ai l'impression que je vous rends muet. Vous réfléchissez. Mais il a dit de faire la même chose sur la terre. Le tabernacle, le temple et tout ça, vous savez bien. Les sacrificateurs qui portent le tabernacle sur l'épaule, non, vous voyez. Je veux dire, c'est tout simple ce que je vous explique. Voilà. Ben, c'est ça la demeure de Dieu, le tabernacle de Dieu, l'église, le temple, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu veut demeurer, exactement tabernaclé, auprès de son peuple. Hello ? C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Parce que Dieu veut tabernacler au milieu de nous. Et sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il vaut mieux regarder le match de foot ou, je ne sais pas, ce que vous avez envie, au lieu de venir ici. Parce que Dieu veut tabernacler au milieu de son peuple. Ça, c'est son cœur. Sauf qu'il y a des conditions. On ne tabernacle pas en étant impur avec quelque chose de pur. On ne mélange pas. C'est tout ce que Dieu a appris aux Israélites et tout ça. Hein. C'est toute la compréhension. L'Ancien Testament, c'est vrai qu'on est plus dans le nouveau. Mais l'Ancien Testament nous apprend énormément de choses sur la sainteté de Dieu, sur qui est Dieu, sur comment il faut s'approcher de lui. On ne s'approche pas n'importe comment. Dieu n'est pas un copain, on lui tape sur le dos en disant « Tiens, j'ai envie de ça, etc. » Tu vois, aujourd'hui, c'est que ça commençait à dériver dans ce sens-là, dans nos cœurs déjà. Mes amis, le tabernacle, la demeure de Dieu, a été révélé à Moïse. Et c'est pour ça que vous retrouvez Moïse à côté de Jésus, quand il y a l'apparition Moïse et Élie, etc. Pourquoi ? Parce que c'est Moïse qui a établi tout ce qui s'est passé par la suite. Et l'Église dépend de Moïse, de tout ce qui s'est passé avant. Parce que l'Église, c'est la suite. On est la suite du peuple de Dieu. On est toujours le peuple de Dieu. Mais on est la suite et il faut savoir qu'on est là pour entrer dans la présence de Dieu, qui est une réalité spirituelle. Et le trône de Dieu est dans cette réalité spirituelle. Et on s'approche de lui dans certaines conditions, pas en étant impur, mais en se purifiant. Il l'a fait, donc je continue le verset 7, il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir, y compris aujourd'hui, l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifesté en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Vous dites Amen. Nous sommes au bénéfice de toutes ces choses. Amen. Alors, j'aimerais vous dire que vendredi dernier, on a vécu, tant pis pour ceux qui n'étaient pas là, vous rattraperez parce qu'on va en faire d'autres rencontres à la rentrée, on a vécu cette réalité que je suis en train de vous décrire et qu'on vient de lire dans ces derniers versets. On a vécu un moment où il y avait une réalité terrestre et une réalité spirituelle. Et il y a une correspondance, un ciel ouvert. Je vous ai jamais dit pourquoi j'ai fait un ciel comme ça, hein, qui, bon, ça coûtait un petit peu cher, mais Dieu m'a montré que je dois le faire comme ça. Parce qu'en fait, ça représente le fait que, même si on est en sous-sol, eh bien, le ciel doit s'ouvrir pour qu'on soit en contact avec le tabernacle de Dieu qui trône. Parce que s'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien qu'on se rencontre. C'est comme les gens du monde, c'est une association, un club, tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est être assis dans les lieux célestes avec Christ. Et donc, ce ciel artificiel qui existe dans la chapelle, eh bien, ça doit nous aider justement à monter. Et regardez là, Joël, il est là, Joël, non? Voilà. Tu peux venir deux secondes, hein? Voilà, voyez-vous, on reçoit du Seigneur. Tu as vécu quelque chose de ce type-là? Bah, viens. Je ne l'ai pas payé. Hein. Je ne l'ai même pas demandé, donc je lui prends de court. Qu'est-ce que tu as vécu, là?
Ces temps de louange et d'adoration, vraiment, on a senti la présence de Dieu. On a cherché le tabernacle. Et réellement, c'était un beau temps pendant où on a pu célébrer et que la gloire de Dieu tombe sur l'Église et sur nous, parce que là où deux ou trois sont réunis, il est au milieu de nous et on l'a vécu cette soirée-là.
Amen. Voyez-vous, dans cette chapelle qui est ouverte à toutes les nations, ce sera une maison de prière pour toutes les nations. Mais dans cette chapelle, elle est destinée à rencontrer particulièrement Dieu dans sa demeure et d'être assis dans les lieux célestes. Et quand on est assis dans les lieux célestes, on peut faire des choses qu'on ne pourra jamais faire si on n'est pas assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Vous y croyez? Pour moi, ce qu'on a vécu vendredi, la fête de la musique et surtout du soleil, qui est adoré par beaucoup de monde dans tout le monde, hein, mais particulièrement en France. Rappelez-vous le roi soleil et tout ça, tout ce propos pour le soleil. Eh bien, on a vécu un temps de ciel ouvert. Oh, ça peut aller plus loin, hein, que ce qu'on a vécu. Hein. J'ai vu qu'il y a des choses plus fortes que ça. Mais j'ai vu que c'était le début, un starter, le début de quelque chose qui allait transformer cette église. Moi, je le crois. Je l'ai vu, je l'ai senti. Il y a un témoignage, voilà, très court, mais de Joël et d'autres, vous voyez, ouverts pour que nous puissions être en communion d'esprit, pour que notre esprit soit assis dans les lieux célestes. Il n'est plus assis sur la terre. Voyez-vous, on a assez avec nos corps, hein, qui, vous savez, ceux qui sont dans l'espace, quand ils reviennent, ils pèsent des tonnes. Hein. Là-haut, ils sont légers. Mais dans le ciel, on est léger. Et on n'a plus le poids du corps, le poids de la gravité. Et on est dans la présence de Dieu. Et on voit les choses différemment. On voit les choses différemment. On voit les relations différemment, on voit les choses différemment. On voit... Ça change complètement de perspective quand on vit ces choses. Amen. Et nous sommes le tabernacle de Dieu. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Mais quand on est rassemblé. Rappelez-vous, il y a un an, j'ai fait venir des serviteurs qui nous ont parlé de l'église rassemblée et l'église dispersée. Il y en a qui se rappellent de ça ? Hein, c'est dans le cadre de l'évangélisation missionnelle. Bon, il ne faut pas oublier cette formation, parce que c'est très important pour nous. Mais l'église rassemblée, c'est quand on est rassemblé. Et l'église dispersée, c'est quand on est dispersé. Quand on est dispersé, on a un mandat, c'est de témoigner. Vous voyez, Marie-France régulièrement donne ses témoignages à la Gerbe, chacun a son travail partout, etc. On est dispersé, on témoigne, on apporte la parole autour de nous. Mais quand on est ensemble, l'Église réunie, aujourd'hui, l'ennemi a cassé cette dynamique, grâce au Covid, entre autres, hein. Mais il faut jamais rester dans la culpabilité du Covid ou autre, il faut se ressaisir. Faut dire, c'est fini. Je reviens dans l'Église. Je reviens dans l'Église et je vis l'Église rassemblée. Vous voyez, c'est nous le responsable. C'est pas la Covid. La Covid nous a donné, je sais pas, un frère me disait, ah oui, mais c'est bien parce que voilà, pendant qu'on était en Covid, on pouvait rester en pyjama, on pouvait suivre le culte, si on veut prendre une tasse de thé, on allait dans la cuisine et tout ça. Voilà. Bon, c'est vachement pratique, c'est sûr. Non, mais je comprends. Hein. Je comprends que le Zoom, le machin, tout ça, c'est, hein, ça nous aide à entretenir la chair. Hein. Bon, c'est pas un problème. Mais le sacrifice de louange, quand tout le monde évoque Romains 12 en disant « Dieu veut un sacrifice ». Mais un sacrifice, ça veut dire qu'il faut s'habiller, il faut venir ici, il faut... Voilà, c'est tout. Mais avant, on le faisait. Pourquoi maintenant, on ne le fait plus ? Ben oui, parce qu'on préfère rester en pyjama et puis s'allonger et puis être comme les Romains sur un sofa pour suivre le culte, tout ça. Mais pourquoi pas ? Mais vous voyez, on est dégénéré. Vous savez pourquoi les Romains, l'Empire romain a disparu. Tous les historiens disent. Du pain et des jeux. Ils voulaient du pain et des jeux. Donc les sénateurs leur donnaient du pain et des jeux. Du cirque et tout ça. On leur envoyait même des chrétiens, puis ils se font avec les gladiateurs, etc. Mais aujourd'hui, c'est quoi ? C'est du pain et des jeux, c'est tout. Tout le monde a du pain et des jeux. Ah, du pain et des jeux. Vous voyez, tout le monde clique. Des jeux, des jeux. Thé, le foot, tout ça, voilà. Je ne critique pas, je constate. C'est tout. L'ennemi a bien trouvé la faille. Mais c'était la fin de l'Empire romain. Quand l'ennemi est venu, hop, l'Empire a disparu. Disparu. Ils n'avaient plus de force, il n'y avait plus rien. Ils étaient affalés sur des divans, sur des chaises. Si le Seigneur vous demande de faire du combat spirituel, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous êtes sur un divan, vous regardez le truc et tout ça. Bon, ok, des très beaux cultes. Rien contre les cultes qui sont à la télé, c'est super. Mais ce n'est pas ça qui fait de vous quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Quand nous sommes tous ensemble réunis en Christ, nous sommes le tabernacle de Dieu. Quand nous sommes réunis, quand nous sommes. L'Église ne peut se concevoir avec des membres dispersés, sauf dans le témoignage. Alors là, c'est la limite de ce que Jérôme fait, parce que oui, c'est pas grave. Je ne sais plus ce qu'il avait écrit. Éphésiens 2. Je continue juste la lecture pour terminer tout à l'heure sur Éphésiens 2. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Est-ce que tu sais que chacun d'entre vous, tu as des œuvres préparées d'avance? Ne regrette pas quand tu iras au ciel pour voir toutes tes étagères qui sont remplies d'œuvres qui sont préparées et tu dis, ah mince, je ne savais pas. Oui, Dieu t'a préparé des œuvres. En tant qu'Église, mais aussi en tant que personne. Et il veut simplement qu'on s'empare de ses œuvres pour les accomplir par sa grâce, parce que c'est lui qui va en plus les accomplir pour nous. Mais il faut juste la volonté de tendre le bras pour le prendre et dire, Seigneur, je veux bien t'obéir et faire l'œuvre que tu m'as appelé à faire. Alors, nouveau tout petit. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés circoncis par ceux qu'on appelle incirconcis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait, en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis lui-même en établissant la paix. Il voulait ainsi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par la mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix avec vous, à vous, qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches, car grâce à Christ, nous avons accès les uns aux autres, comme les autres, auprès du Père, par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. En même temps, nous sommes une demeure où Dieu habite. Donc nous sommes un temple. Le temple, c'est l'endroit où Dieu habite. Je vais illustrer un peu ça, parce que c'est très dense, et dans le temps qui m'est imparti, je ne peux pas développer tout ça. Mais on représente, enfin ça c'est une représentation un peu littérale d'Apocalypse, hein, qui dessine la Jérusalem nouvelle. La Jérusalem nouvelle, c'est l'ensemble des chrétiens, c'est l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont au ciel. Et petit à petit, elle se construit, cette Jérusalem nouvelle. Et là, la forme carrée, en tout cas, l'apôtre Jean qui a vu ça, il l'a vu carré. Donc voilà, c'est un cube plutôt. Voilà. Donc cette Jérusalem céleste représente la visibilité de l'union des croyants en Christ dans le ciel. Donc dans une réalité invisible. Le ciel, ce n'est pas les nuages, c'est une réalité invisible. C'est le temple qui est un édifice spirituel, dont Christ est à la tête, puisqu'il trône jusqu'à la fin, où il va remettre son autorité au Père. Mais pendant tout le temps de l'Église, c'est lui qui trône. Et nous, nous trônons avec lui. Et sur la terre, il y a un édifice, voilà, qui est fait de pierres. C'est pas des pierres, voilà, qui sont comme des briques. C'est voilà, ils sont un peu taillés et tout ça, voilà, parce que Dieu nous taille. Mais la première pierre, c'est Jésus. C'est la pierre angulaire qui donne la longueur, la largeur et la hauteur. C'est toute pierre qui définit un édifice, qu'il est posé, et ensuite, après, l'édifice se pose. Donc, c'est Jésus. Donc, Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. À côté de ça, il y a les prophètes et les apôtres, qui sont aussi les fondations, hein, qui continuent l'enseignement de Jésus, hein, dans tous les sens. Donc, nous sommes appuyés sur le fondement des apôtres et des prophètes qui ont écrit le Nouveau Testament. Et ensuite, après, il y a les ministères dons. Dieu donne, Éphésiens 4, des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, etc., pour édifier cet édifice. Édifier, ça veut dire édifice. Édifice, édifier, édifier l'édifice, voilà. Ils édifient l'édifice. Donc, ils continuent à monter en mettant des pierres, que nous sommes chacun d'entre nous. Hein. Le rôle, c'est de mettre des pierres qui sont en prolongement de largeur, longueur et hauteur. Vous voyez que parce que sinon, on part dans tous les sens, cet édifice. Cet édifice est un édifice, regardez, parfait dans le ciel. Sur la terre, il n'est pas parfait, mais il faut. Les responsables sont obligés de remettre souvent les pierres un petit peu dans le bon sens. Vous voyez ? Donc, ne soyez pas surpris si je vous reprends un peu, en tout cas sur la doctrine, parce qu'on ne peut pas se permettre de partir dans tous les sens au niveau doctrine, c'est très grave. C'est la vérité de la parole. Alors. Là, je rappelle Moïse. Hein. La vision de Moïse, qui voit le modèle du temple, puisqu'il le voit, puisqu'il dit « Tu feras exactement tout ce que je t'ai montré. » Et ça, c'est l'office de prophète, l'office de la parole. Exode 25,8 « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Donc Dieu lui a montré un modèle où Dieu demeure. Ce modèle, il fallait qu'il le reproduise parfaitement sur la terre. Et ça donnait le tabernacle de David, enfin le tabernacle de Moïse, ensuite David, et ensuite après le temple de Salomon, et aujourd'hui c'est nous. Donc nous, il faut qu'on se laisse tailler pour qu'on soit conforme au modèle qui est dans le ciel. Le but de tout ça, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu n'importe comment. Dieu, il est Dieu. Et nous sommes des humains. Et nous devons nous conformer à sa parole. Parousie, ça veut dire présence. Hein. C'est-à-dire la présence de Dieu. Donc Dieu va venir dans sa parousie, c'est-à-dire il va venir présent. C'est le cas du millénium où Jésus va régner sur la terre, hein, et c'est là qu'il y aura la paix. Le seul moment où il y aura la paix, c'est quand Jésus va revenir. Parce que lui, il est le prince de paix. Et donc il y a d'un côté les prophètes et de l'autre côté les sacrificateurs. Alors le sacrificateur s'appelait à l'époque le Kohen, en hébreu, hein, le Kohen. Le Kohen, ça veut dire saint. Il fallait qu'il soit saint. S'il n'est pas saint, c'est-à-dire qu'il n'est pas pur, parfaitement pur, eh bien il est frappé immédiatement par la présence de Dieu. C'était le cas du souverain sacrificateur. Il lui attachait une corde à son pied pour que, s'il n'était pas pur et qu'il était frappé de mort, et ça arrivait assez souvent, bah, il puisse le tirer parce que personne ne pouvait rentrer, parce que les gens ils tombaient comme des mouches, à peine ils rentraient. Donc il le tirait pour l'enterrer au moins, voilà. Mais il a failli à sa mission. Les souverains sacrificateurs, même aujourd'hui, hein, Yom Kippour, hein, ils se préparent pendant plus d'une semaine, etc. Bon, ils ont gardé la pratique. Hein. Ils n'ont pas de temple, mais ils gardent la pratique. Hein. Ils se purifient. Ils se purifient de toutes sortes de manières, etc. Vous voyez, on ne fait pas les choses n'importe comment, à présent de Dieu. Et là, on voit eh bien, Aaron. Dieu a choisi Moïse pour recevoir le modèle qu'il fallait se conformer, et Aaron pour celui qui apporte, qui intercède, qui est médiateur, sacrificateur, médiateur. Et c'est Jésus qui a pris sa place. Jésus qui a pris la place d'Aaron, qui a d'ailleurs repris l'ordre de Melchisédek, mais ça c'est une autre affaire. Il y a un troisième office, l'office de prophète, l'office de sacrificateur. Et c'est quoi le troisième office? C'est roi. Alors on le lit tous ensemble pour que ça rentre dans votre cerveau. Il y a trois offices: prophète, sacrificateur et roi. Quand Dieu a établi le peuple au moment de Moïse, il a établi ces trois offices. Et ils n'ont jamais changé. Et à l'époque de l'Ancien Testament, chaque office devait être tenu par des gens différents. S'il y avait un qui faisait les deux, il était destitué immédiatement de son autorité. C'est le cas de Saül. Saül, quand il a voulu remplacer Samuel, immédiatement, Dieu lui a retiré l'autorité du roi. Il n'y a que Jésus, qui peut occuper les trois offices. Ça s'appelle le triple office, les trois offices. Prophète, sacrificateur et roi. Et là, c'est un roi berger. C'est un roi qui prend soin du troupeau. C'est un roi souffrant. C'est un roi qui a montré, et c'est le trône de David. D'ailleurs, David était berger. Donc c'est le trône de David. Le but de cet office, c'est de conduire le peuple de Dieu. Qui est-ce qui a conduit le peuple de Dieu dans le désert? Qu'est-ce qui a conduit? Moïse? Josué? Pardon? Ouais, là vous avez tout faux. Ah, vous n'êtes pas venu pour rien ce matin. C'est tout faux. La colonne de feu. Eh oui. C'est la colonne de feu. Et c'est quoi? Parce qu'il y a un autre nom pour la colonne de feu. Il y a un autre nom. C'est l'ange de la face. Et l'ange de la face, on le retrouve à d'autres endroits. C'est Jésus. C'est celui qui peut se tenir en face de Dieu sans être frappé. Il peut placer devant Dieu. C'est l'ange de la face. C'est quand la colonne se levait que Moïse disait on s'en va. Mais il n'y a même pas besoin de le dire, parce que c'était une convention. Si jamais la colonne se ne levait pas et qu'ils y allaient, ils étaient morts. Il y a des ennemis, tout plein d'ennemis autour de lui. C'était fini. Quand la colonne se levait, c'est Dieu qui a conduit son peuple. C'est Dieu qui a conduit son peuple. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il fasse tout ce qu'il fallait dans le tabernacle pour qu'il soit prêt à suivre cette colonne qui allait se lever et partir et leur donner la victoire. C'est l'ange de la face. C'est un autre nom pour la colonne de nuit. Donc Christ, c'est le triple office, prêtre, roi et prophète. C'est le poimen. Le poimen, poimen, ça veut dire pasteur. Je me suis toujours posé la question pourquoi il n'y a qu'une seule fois que le mot pasteur est utilisé dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de pasteurs. Vous voyez, parce que moi je suis pasteur. Pasteur, non, c'est celui qui dirige l'Église. Pourquoi il n'y a qu'une seule fois le mot poimen? Alors, c'est mon interprétation. Hein. Je ne l'ai nulle part, mais moi je pense que j'ai compris pourquoi. Il n'est pas écrit que ce sont des pasteurs qui doivent conduire l'Église. Même si tout le monde m'appelle pasteur ou les gens ne m'appellent plus pasteur. À votre avis?
Parce que c'est Jésus.
Parce qu'en fait, dans le Nouveau Testament, il y avait le même respect pour Jésus en tant que pasteur que ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament pour Jéhovah, pour Yahvé. Yahvé, il ne prononçait pas le mot. Il n'écrivait pas. Il disait Adonai, mais pas Yahvé. Pas la révélation de Dieu à Moïse. Et de même, Jésus, dans le Nouveau Testament, les apôtres, ils considéraient qu'il n'y avait qu'un seul pasteur, c'est Jésus. C'est le bon berger. Vous aimez le bon berger? Vous avez raison. Il n'y a que lui qui peut conduire son peuple. Ce n'est pas moi. Vous savez, moi, je suis rebelle par nature. Vous, vous êtes rebelles par nature. Qu'est-ce que ça donne des rebelles ensemble? Ça donne des conflits. Donc moi, j'ai aucune illusion hein, sur le pastorat. Si Dieu n'est pas respecté comme le pasteur de son église, de son assemblée, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et plus ça va, moins ça marchera. Parce que chacun a envie de faire ce qu'il veut. Chacun a envie de faire ce qu'il veut. Si tout le monde se tourne vers le pasteur, qu'il obéit à sa parole, qui respecte la façon de s'approcher de lui dans la sainteté, et qu'il se lève quand la colonne se lève et qu'il y a, parce que vous avez tous une colonne qui se lève pour vous, dans vos projets, etc. Si vous le faites, c'est très bien, mais c'est pas au pasteur. Il y a des pasteurs qui disent avec qui il faut se marier, etc. Enfin, on trouve des aberrations dans le peuple de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'Écriture. Il n'y a qu'un seul pasteur, un poimen. C'est le bon berger. Et les apôtres n'ont fait exprès. Ils parlent des leaders, ils parlent des responsables, ils parlent des anciens, ils parlent des épiscopes, ils parlent des... Voilà. Mais pas de pasteur, vous voyez. Parce qu'on a un respect que c'est Jésus qui doit conduire son peuple. Je termine. Je rappelle que le logos, la parole, était au début. Donc c'est Moïse, vous voyez les cornes qui sont dessinées, c'est les cornes de l'autorité prophétique. C'est pour ça qu'on dessine les cornes, c'est symbolique. C'est l'autorité de la parole. C'est lui qui a reçu les 10 commandements et qui les a amenés au peuple. Et nous, on a la parole de Dieu qui est Jésus, qui est venu directement, en tant que, qui s'est incarné en tant que parole. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Moïse a reçu les tables de la loi dans le cadre de l'office de prophète, et Jésus est le prophète par excellence, tout le monde le savait quand il était là. Ensuite, l'autre office, c'est l'office de Kohen. Un Kohen, en hébreu, c'est quelqu'un qui est dédié, dévoué. C'est pour ça que les Lévites étaient dédiés. Ils ne travaillaient pas. Ils étaient dédiés au service. Et nous, nous devrions tous être des Kohen. Tous être dédiés. Tous des serviteurs du Seigneur. Alors, le drame du catholicisme, c'est qu'ils ont fait deux classes. Le clergé et les laïcs. Ça n'existe pas. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, oui, il y avait les Lévites et les autres. Pas dans le Nouveau Testament. Tous, nous devons être des sacrificateurs. Un peuple de sacrificateurs. Un peuple de Lévites. Donc, consacrés, dévoués. Si nous ne sommes pas dévoués, on ne peut pas être entrés dans la présence vraiment de Dieu. On peut être chrétien, mais on ne peut pas jouir de la présence de Dieu comme l'ont fait les Lévites qui étaient dans le lieu saint et pour certains dans le lieu très saint. Donc la fonction de Kohen, littéralement Kehuna, est conférée à Aaron, la tribu de Lévi, ensuite après à Tsadok, etc. Dans Jésus, le prophète maintenant, il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moi, je n'ai pas donné ma vie pour vous. Jésus l'a donné. Et moi, j'ai consacré ma vie au pastorat, mais ça n'a rien à voir avec Jésus, qui a donné sa vie. Il donne sa vie pour ses brebis, qui conduit son peuple dans de verts pâturages. Moïse a reçu cet office de leadership apostolique, mais c'est l'ange de la face qui conduisait le peuple dans le désert. Amen. Voilà. Alors, en dernière image, hein, c'est que des images, hein. L'Église céleste est une et indivisible. Il n'y a qu'une seule Église. Il n'y a qu'un seul pasteur. Il n'y a qu'un seul roi. Hello? L'Église est une et indivisible. On le dit tous ensemble? L'Église est une et indivisible. Oui, mais alors vous me direz, hein, comment on fait? Il faut faire l'unité. Ah, tout le monde veut faire l'unité. Non, il n'est pas à faire, il existe. Oui, c'est Ricardo qui m'a mis sur cette piste-là. Il a dit, mais c'est aberrant de dire qu'il faut faire l'unité des églises. Non, elle existe. Bien sûr. Vous me regardez? Vous êtes étonné? C'est un scoop? L'unité existe. Sinon, ce n'est pas l'église. Et vous, chacun de vous qui êtes né de nouveau, vous êtes dans cette église. Allô? Non, vous ne croyez pas? Sinon, vous êtes dans une secte. Ici, ce n'est pas une secte. Ici, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église de Jésus-Christ, c'est les unis indivisibles. Tous ceux qui sont en Christ sont dans cette Église, sont dans ce temple. Et il faut prendre conscience de ça. Et prendre conscience des responsabilités. On ne peut pas dire, je suis dans cette église une et indivisible, et puis bon, je ne vais pas en réunion de prière, ou ceci, ou cela, etc., je fais ma vie personnelle, ok. Plus en plus, les chrétiens font leur vie personnelle. Mais ce n'est pas une église, ça. C'est une église-temple. C'est une invention de chacun qui fait son église. Ce n'est pas ce que dit la Bible, voyez. Donc il faut revenir à la parole. La parole dit qu'il y a une seule église. Et cette église, elle se construit au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles naissances. Et à la fin, elle va apparaître, c'est la parousie, où Jésus va descendre avec cette église sur la terre et régner pour 1000 ans. Donc cette église descendra sur la terre. Par contre, aujourd'hui, le Saint-Esprit amène cette présence au milieu de nous. Et l'expression terrestre de l'église universelle, c'est la manifestation de sa présence par le Saint-Esprit. Et l'expression, c'est une église locale, un temple local, à Aubergenville. J'ai pris Melun parce que c'est juste à côté, mais vous pourriez en mettre autant autour de vous. C'est l'expression locale de personnes qui se réunissent physiquement pour justement établir un tabernacle de louange, d'adoration, de reconnaissance et jouir de la présence de Dieu au milieu de nous. Mais nous sommes aussi dans l'Église universelle qui est une et indivisible. Bien sûr, ça heurte notre logique, mais Dieu est au-dessus de notre logique. Dieu, il a créé toute chose. Et c'est dans cette dimension que j'aimerais vous entraîner ensemble pour qu'on puisse la vivre. Manifestons donc sur la terre la réalité de l'Église céleste, une expérience de la présence de Dieu par son esprit dans l'Église réunie. Quand vous serez dispersés, continuez à témoigner, mais quand vous viendrez le dimanche, c'est pour ça qu'on se voit tous les dimanches, pour se réunir dans la présence de Dieu, pour jouir de sa présence. Et c'est là qu'il aime être. Parce que nous reflétons la réalité spirituelle où nous sommes tous ensemble. Donc c'est un reflet d'une réalité spirituelle. Et là, je peux vous dire, mes amis, l'ennemi ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas nous toucher. Je vous dis une vérité. Quand on est séparés, il trouve des failles. Quand on est ensemble, il trouve des failles si on n'est pas dans les conditions. Mais moi, en tant que pasteur, je suis responsable devant Dieu, de vous amener dans les conditions. Et vendredi, on était dans des conditions, je peux vous garantir, qu'on a vécu le ciel sur la terre. C'est un début. Mais tout début, un commencement, peut-être petit, mais de qualité. Et je voudrais vraiment vous encourager, tout au moins pour la rentrée, parce que là, on va sur des vacances, mais qu'on puisse vivre ces temps ensemble. On appelait ça Moving Glad. Moi, j'ai vécu des temps de gatherings sur le plan mondial. Vous savez, les Chinois, des 80% de Chinois qui étaient là. Ils étaient déjà 4 heures avant la réunion, ils étaient là, en train de prier. 4 heures avant. Ils venaient pas juste au... Non, ils priaient. Et là, vous avez la présence de Dieu. Amen. Parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Que le Seigneur nous aide à savoir ce que nous faisons ici, en tant qu'Église. Seigneur, nous te prions que nous donnes la conscience de ce temple, Seigneur, qui est dans le ciel et que tu veux qu'on reproduise sur la terre en restant, Seigneur, ouvert à toi. Seigneur, uni à toi par ton esprit. Seigneur, nous te prions de nous aider à comprendre cette réalité au nom de Jésus.